Est-ce quelques-uns? Oups.
Il y en a plusieurs qui sont en vacances. J'ai invité les enfants à venir me rejoindre en avant. Il y a au moins les deux miens. Raphaël qui est là-bas. Ceux qui vont monter, venez me rejoindre ici. On va prier pour vous. Les enfants vont monter pour l'étude pour les plus jeunes. Ah! Il y en a quelques-uns. J'ai une question pour vous, les enfants. Petite question pour vous. Ce matin, j'étais dans mon culte personnel. Je lisais dans le livre des juges. Et puis, je lisais l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon a fait pour Israël? Est-ce qu'il y a un enfant qui le sait? Qu'est-ce que Gédéon a fait pour Israël? C'était quoi son rôle? Bastien?
Je crois que Gédéon a délivré Israël d'un certain peuple.
Oui, Gédéon a délivré Israël d'un certain peuple avec quelques personnes. Hein? Quelques, pas beaucoup. En effet. Maintenant, est-ce que Dieu a choisi... Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Gédéon? Ça vous revient un petit peu? Avec les cruches, tout ça. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Gédéon? Est-ce que Dieu a choisi Gédéon à cause de ses gros bras? Non? Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans Juge sur Gédéon. En fait, ce que Gédéon dit de lui-même, lorsque Dieu lui dit qu'il va servir de lui, il dit « Ah, mon Seigneur! » Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Dieu peut servir des tout petits. Gédéon, c'est un tout petit en Israël. Dieu peut servir des tout petits. Oui, Bastien.
Je crois qu'il a utilisé Gédéon à cause que parfois c'est les plus petits qui ont une plus grande foi.
Ah, mais Gédéon, il n'avait pas beaucoup de foi même. Gédéon même manquait de foi, puis il a demandé des signes. Mais voici ce qui est dit toujours sur Gédéon, au moment où Gédéon va aller au combat. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alors Dieu peut se servir des tout petites personnes pour faire des grandes choses. Et Dieu peut se servir de vous cet été pendant que vous allez aller visiter vos familles, voir des amis pour leur parler de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Dieu peut se servir de vous comme des missionnaires cet été. Par son esprit. On va prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse dans l'étude ce matin. Père éternel, Seigneur Jésus, tu dis « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Tu dis que nous devons ressembler à un cœur d'enfant qui reçoit humblement ta parole pour entrer dans ton royaume, Seigneur. Père, on veut te demander de bénir ces enfants ce matin, de bénir les moniteurs qui seront avec eux. Viens leur dire, Seigneur, que tu veux te servir d'eux à leur âge. Viens leur dire, Seigneur, qu'ils comptent à tes yeux, comme Gédéon qui était le plus petit en Israël à ses propres yeux. Mais tu t'es servi de Gédéon. Viens, Seigneur, leur dire combien ils comptent à tes yeux ce matin et combien tu veux te servir. Merci pour nos enfants, Seigneur. Notre prière, c'est de les voir grandir en toi, comme Alexandre en a témoigné. Que dès l'âge de 5 ans, leur vie te soit consacrée, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon matin, vous pouvez monter. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu 19. Si on a des visiteurs, des gens qui sont en visite ce matin, vous n'avez pas une Bible avec vous, j'aurais dû le mentionner avant, juste lever la main. Les placeurs vont venir vous porter une Bible ouverte dans Matthieu 19. Juste ici à l'avant, il y a une dame qui aimerait avoir une Bible dans Matthieu 19. Si les placeurs... en arrière aussi. D'accord? Si les placeurs, vous pouvez aller chercher des Bibles puis les tourner dans Matthieu 19. Une personne à l'avant, une personne à l'arrière. Et Alexandre va nous faire la lecture de la parole de Dieu.
Matthieu 19, à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne.
Avant de se tourner vers la parole de Dieu, j'ai quelques annonces pour vous, quelques nouvelles aussi. Vous êtes au courant pour le service de M. Beau, le service funéraire qui va avoir lieu mardi après-midi. Si vous ne l'avez pas reçu par courriel, je vous le mentionne. Donc le service va avoir lieu ici à la demande de la famille. On ne sait pas combien de personnes on va accueillir, évidemment. C'est un des pionniers au niveau de notre association au Québec. Alors, est-ce qu'on va être 200, est-ce qu'on va être 600? On n'a pas la moindre idée. C'est pourquoi la famille a demandé de le faire ici. C'est une des assemblées que M. Beau a fondées, l'Assemblée de Saint-Hilaire aussi. Donc, ça va avoir lieu mardi à 14h30 et les gens qui voudraient offrir leurs condoléances à la famille vont pouvoir se présenter à partir de 13h30. Maintenant, comme je le mentionne sur la prochaine acétate, il y a encore des besoins au niveau de la garderie. La famille a demandé si c'était possible d'avoir une garderie pour les 0-6 ans, pour qu'ils puissent vraiment apprécier puis se concentrer sur le service. Alors, on a une sœur qui s'est portée volontaire, puis j'ai des bénévoles pour d'autres choses à faire dans l'après-midi. Mais on aurait besoin encore de 3 personnes qui pourraient s'impliquer auprès de la garderie. Alors, ça peut être jeunes et moins jeunes qui seraient disponibles pour prendre les 0-6 ans, peut-être une dizaine d'enfants, on prévoit. Je vous demanderai de venir me voir après. Ça va être vraiment précis si c'est possible de le faire pour justement que les gens puissent se concentrer sur le service funéraire. Alors, venez me voir après le service, venez me donner vos noms. Évidemment, là, il y a une sœur qui est seule pour l'instant avec tous les bambins. Ça ne sera pas nécessairement facile comme ça. On s'en va en vacances. La famille Étier s'en va en vacances. On était supposé tomber en vacances cet après-midi, mais bien sûr, on va rester pour le service pour mardi. Et puis, on va venir au service, la voiture paquetée. Et en fin d'après-midi, on s'en va à Rivière-du-Loup. Alors, on va être parti pour 4 semaines. C'est pas mal notre habitude de prendre un mois de vacances. Et par la grâce de Dieu, on va le faire encore cette année, malgré les quelques changements. Donc, je tenais à vous le mentionner. Les anciens vont être disponibles. On a préparé ça. Les anciens vont être ici. Tous les dimanches, il va y avoir un des anciens qui est disponible. Si vous avez des questions, en fait, ils vont venir même vous présenter parce que quelquefois, ça va être des prédicateurs invités. Par exemple, dimanche prochain, c'est Claude Vachon qui va venir faire une présentation. Il va apporter le message de la parole et le couple Vachon a un ministère auprès des gens en difficulté dans le centre-ville de Montréal. Ils sont attachés à l'église de Rosemont. Donc, ils vont venir vous faire une présentation de leur ministère et il va apporter le message de la parole. La semaine suivante, vous allez avoir Sébastien Valade, qui est un jeune homme de l'Assemblée ici, pasteur depuis 2 ans de l'église de Pont-Rouge, dans la région de Québec. Et il était très honoré de venir vous apporter le message de la parole de Dieu. Et puis, la semaine suivante, Terry Cuthbert va apporter le message ici, va venir nous parler d'évangélisation, bien sûr, puisqu'il est responsable du ministère d'implantation d'église dans l'association. Et ensuite de ça, on va voir l'honorable Alexandre Marquis qui va nous apporter le message de la parole. Donc, vous allez retomber en terre inconnue. Et puis, nous, on reviendra de vacances ensuite. Les anciens vont être disponibles, comme je vous dis, si jamais il y a quelque chose, une urgence. Il y a d'autres pasteurs que moi dans cette assemblée. Dieu merci, ça ne repose pas sur un homme, mais on travaille vraiment en collège d'anciens. Alors, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale, vous les connaissez, vous pouvez les téléphoner. Et puis, ils vont être ici dimanche matin, n'hésitez pas à aller les voir si jamais il y avait une urgence ou quelque chose comme ça. J'ai pensé vous mentionner quelques bonnes nouvelles aussi, parce qu'on est dans une période de transition, et avant de se tourner vers la parole, je me suis dit quelques bonnes nouvelles encourageantes. Il y en a peut-être qui peuvent l'avoir perdu de vue. Danny Gosselin commence à travailler pour l'Assemblée, au moins pour un mandat de 6 mois. Ensuite, on va voir comment le Seigneur va diriger. Donc, le 18 août, Danny va commencer à travailler à temps plein comme adjoint administratif. Et le Seigneur fait des belles choses. On a travaillé très, très fort dans les 3 derniers mois pour mettre des choses en place. Et le comité de finances, ainsi que le comité de gestion du bâtiment, sont de plus en plus autonomes. Ainsi, Danny n'aura pas à siéger sur ces comités-là. Donc, on va le chercher comme adjoint administratif, mais vraiment son travail va être auprès de la vie de l'Église. Il va consacrer du temps à l'intendance de l'école du dimanche, consacrer du temps pour appuyer le travail de la fusion, c'est-à-dire l'accueil le dimanche matin, les petits groupes. Évidemment, il va consacrer beaucoup de temps à m'aider moi. Mais donc, Danny va vraiment être appliqué à la vie de l'Église. C'est pas mal intéressant. Pas que le bâtiment puis les finances ne le sont pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est très encourageant. D'une part, que Danny s'en vienne. D'autre part, que le comité de finances devienne aussi autonome. C'est vraiment un grand encouragement pour moi. Le comité de gestion du bâtiment aussi, on a une belle équipe. On pourra vous les présenter plus cet automne. Un autre encouragement. On a mentionné à la réunion annuelle qu'on allait entrer dans une période de prière pour chercher la face de Dieu et probablement aller chercher un évangéliste, éventuellement un pasteur qui s'appliquerait davantage à l'évangélisation, à la formation de disciples. Maintenant, ça va être un processus. Dans la prière, cet automne, on va vous en reparler, on va vous demander d'être avec nous là-dedans pour que le Seigneur puisse nous conduire. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que Dieu nous prête temporairement un coup de pouce de la part d'un autre évangéliste. Et Noël Morissette, qui est évangéliste, responsable d'évangélisation à l'église de Terrebonne-Mascouche, a à cœur de venir nous aider. Alors au début, il m'a dit, Yannick, si tu veux m'envoyer quelques personnes, je vais donner un cours à Terrebonne pendant l'automne. Puis là, on s'est reparlé cette semaine, il dit non, j'ai plus à cœur que ça de vous aider. Je vais venir chez vous, vous rencontrer et voir où est-ce que vous en êtes, puis voir comment on peut vous aider à avancer. Alors, c'est lui qui a développé là-bas à Terrebonne. En fait, il avait développé plutôt, même à Granby, un ministère équivalent à ce qu'on appelle chez nous la fusion. Ça veut dire tout le ministère d'accueil le dimanche matin, puis aller rencontrer les gens, voir où ils en sont spirituellement, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur, est-ce qu'ils sont nouveaux dans la foi. Et on est vraiment au balbutiement avec ce ministère-là qui est tellement important. Vous savez qu'on a peut-être 10 de personnes qui viennent visiter chaque dimanche matin. Certaines d'entre elles, bien évidemment, déjà, le fait qu'ils viennent dans notre bâtiment, c'est pas nous qui allons cogner à leur porte, c'est eux qui viennent cogner à la nôtre. Vous comprenez? Alors, ne pas accueillir ces gens-là, prendre soin d'eux, essayer de voir si on peut répondre à leurs besoins spirituels, déjà, tu sais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Noël a à cœur de venir nous aider. Il dit, je vais être comme votre sous-traitant en évangélisation, OK? Fait qu'il va venir nous appuyer cet automne. Je vais le rencontrer au début septembre, puis on vous donnera des nouvelles de toutes les propositions, l'aide, la formation qu'il va vouloir nous donner cet automne là-dessus. Un autre grand encouragement pour moi, c'est l'équipe de visite qui va commencer à travailler. Malgré le fait qu'on a 19 petits groupes un peu partout sur la rive sud qui se rencontrent soit aux semaines, soit aux 2 semaines, malgré cela, il y a des besoins quand même pour des gens qui sont soit à l'extérieur des petits groupes, soit qui ont une maladie prolongée, soit qu'il y a un deuil qui le traverse, et les anciens ne suffisent pas au travail pour aller visiter ces gens-là. Et donc, on a eu à cœur de mettre sur pied une équipe de visite qui va pouvoir intervenir comme ça rapidement. Et Danny va accueillir ces gens-là le mardi matin pour voir avec eux quelles sont les visites à faire dans la semaine suivante. Et vraiment, on est confiant que ça va répondre à un besoin important dans l'Église où on avait comme l'impression des fois qu'on échappait, je ne sais pas si je peux dire ça, on manquait un peu d'attention envers des gens dans l'Église. Et je pense que ça vient de Dieu. Puis Danny va pouvoir faire un travail de coordination. Je vais aller prier avec ces gens-là à chaque semaine. Donc ça va commencer en septembre, bien qu'il y en a qui ont déjà commencé à faire cette œuvre-là. Et on pourra vous présenter ces gens-là au fur et à mesure. Une autre bonne nouvelle, je vais vérifier avec Alex si je pouvais la mentionner. C'est une petite nouvelle, mais quand même vraiment encourageante pour moi. Alex, dans le cadre de sa formation, va avoir un peu de temps qui va se libérer cet automne. Et voici ce qu'on a pensé faire. On n'a même pas mentionné à Bertrand. Je ne sais pas si Bertrand Maltais est ici. Es-tu là, Bertrand? Non. Alex va aller proposer de donner un petit coup de main à Bertrand avec la bouffe pour tous. Vous savez qu'on a un ministère, une banque alimentaire qui aide 300, 400 familles chaque semaine. Et vraiment, c'est une belle œuvre. C'est ce qu'on appelle une œuvre de miséricorde. On est vraiment de bons samaritains en faisant de telles choses. Mais en même temps, ce qu'on a de plus à offrir que de la nourriture, C'est une nourriture spirituelle qui vient rassasier une soif, n'est-ce pas, éternelle. Et c'est un élément qui restait encore à développer dans le cadre de nos distributions de Bouffe pour tous. Et donc, Alexandre va consacrer un certain nombre d'heures cet automne pour aider à mettre sur pied cette dernière table au bout de notre distribution ou quelque chose du genre, où il y aura toujours des ressources spirituelles et des gens qui, dans chaque équipe, vont être prêts à conseiller. L'Église de Rosemont le fait depuis des années et l'Église de Saint-Hyacinthe le font. Et ils ont des fruits spirituels. Alors, ils ont la joie d'aider, d'être généreux, mais au-delà de ça, ils ont la joie aussi de voir des fruits spirituels en grand nombre. C'est vraiment surprenant de voir le nombre de personnes qui ont soif aussi de l'Évangile. Et donc, Alexandre va développer ça cet automne. Donc, on prie pour un évangéliste, mais on entre déjà dans l'œuvre d'évangélisation. Amen. Encourageant. Bénédiction. On va aller ensemble dans un mot de prière. J'aimerais qu'on puisse prier pour le service, pour Mme Martin aussi, qui a eu un séjour à l'hôpital cette semaine. Bon Père céleste, tu as de bons projets pour nous, Seigneur. Au-delà du soleil, de la pluie, de l'abondance de ce pays, au-delà, Seigneur, des enfants que tu nous confies, au-delà de la santé que tu nous donnes, au-delà, Seigneur, de la richesse de vivre ici au Canada, la plus grande preuve des bons projets que tu as pour nous, Seigneur, c'est la venue de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie sur cette croix. Appeler des hommes et des femmes de toute nation, de parmi les nations païennes, qui ne te louaient pas, qui ne te cherchaient pas. Et tu as appelé des hommes et des femmes de toute nation, afin qu'ils connaissent Jésus-Christ. Tu es un bon Père. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Cette semaine, je comptais tes bienfaits et j'avais de la louange dans le cœur. Père, je veux te bénir pour ce couple qui a quitté la France voilà plusieurs décennies, Monsieur et Madame Beau, ce charpentier, cet homme qui, comme il disait lui-même, était d'une grande simplicité, mais qui a eu à cœur d'annoncer la bonne parole de Jésus-Christ. Je veux te bénir, Seigneur, pour les années de sacrifices qu'ils ont fait, par amour pour toi et par amour pour les Québécois. Te bénir, Seigneur, pour cette assemblée qu'ils ont fondée et les autres, Seigneur. Te bénir, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui les as fortifiés à travers ces années de dur labeur. Où au début, Seigneur, la terre québécoise était tellement fermée, tellement dure, les persécutions fréquentes. Monsieur Beau m'a partagé toutes les portes de la rive sud qu'ils ont couvertes pour voir une seule conversion qui en a amené d'autres ensuite. Je te bénis, Seigneur, pour les sacrifices qu'ils ont faits et de savoir, Seigneur, que tu l'as gardé fidèle jusqu'à la fin et qu'aujourd'hui, il est auprès de toi. Père, on veut te prier pour le service qui va avoir lieu mardi après-midi. Il y aura, Seigneur, dans cette assemblée, soit dans la famille, soit chez les amis, des personnes qui n'ont pas saisi ce beau message encore. Viens te glorifier encore une fois, Seigneur. Et que la vie et la mort de M. Beau servent encore une fois à annoncer Jésus-Christ. Viens ouvrir les yeux, Seigneur, si parmi ces petits-enfants, certains n'ont pas encore saisi Christ. Viens ouvrir leurs yeux, Seigneur. Viens soutenir la famille à travers cette épreuve, cette séparation. Je pense spécialement à Mme Beau qui a perdu son compagnon de route. Compagnon depuis des décennies. Console-la. qu'elle trouve, Seigneur, encore une fois en toi son époux parfait. J'aimerais te prier pour Mme Martin qui a été éprouvée encore dans sa santé cette semaine. Viens la fortifier, Seigneur. Viens lui donner de la joie au milieu de l'épreuve. Enfin, Père, je veux nous recommander à toi ce matin. Parle-nous. Seigneur Jésus, ta parole est tranchante. Tes standards sont si élevés, Seigneur. Tes disciples se sont exclamés, le mariage n'est peut-être pas avantageux dans ces conditions-là. Aide-nous à comprendre ta volonté, Seigneur. Je te prie, Père, de venir appliquer ta parole dans chacune de nos vies ce matin et d'être spécialement avec moi, afin que je prêche fidèlement, Seigneur, et par ta grâce et par ta puissance, des saintes Écritures. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, Matthieu 19, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi?
Oui.
Vous êtes endormi, c'est ça, là? Il y a eu 3 amens puis 2 ronflements. La semaine dernière, la première prédication sur le passage, on a vu ensemble, j'ai essayé de résumer le passage Matthieu 19, 1 à 12, à 2 questions. La question du cœur de l'homme et la question du plan de Dieu pour le mariage. Il me semble qu'on peut résumer tout ce passage-là à ces 2 seules questions. Le problème du cœur de l'homme depuis la chute de l'homme, un cœur sclérosé, un cœur dur, et toute la question du plan de Dieu, la volonté de Dieu pour le mariage, et le conflit qu'il peut y avoir entre ces 2 choses-là. On a vu ensemble que le plan de Dieu pour le mariage est l'union entre un homme et une femme qui est permanent jusqu'à la mort. Et tout ce que Jésus fait dans le passage ici, c'est qu'il nous ramène au plan de Dieu. C'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas facile à recevoir, mais c'est quand même simple à comprendre. Il nous ramène au début à la création, il nous ramène au plan de Dieu. Ainsi, à part une clause d'exception, Jésus n'admet pas le divorce parce que dans le plan de Dieu, l'homme et la femme sont unis pour la vie. Ces 2 êtres deviennent une seule chair. C'était ça le design de Dieu. Alors, à part pour une clause d'exception, Jésus n'admet pas le divorce. Maintenant, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, je vais le mentionner encore en commençant ce matin, je n'aborde pas ce sujet-là froidement, d'accord? J'aborde pas ça comme si c'était juste de la théorie dans mon esprit, comme si c'était quelque chose où j'étais au-dessus de ces questions-là. Je l'ai mentionné la semaine dernière, mon épouse et moi venons, en fait j'ai mentionné juste pour moi, mais c'est la même chose pour Esther, on vient de 2 foyers brisés par le divorce. Il faut que vous sachiez cela. J'aborde pas ça comme si c'était des questions théoriques pour moi. J'aborde ça comme quelqu'un qui essaie de marcher avec Christ, mais qui à 12-13 ans a vu son foyer éclater, brisé par le divorce. C'est pas théorique pour moi ces questions-là. C'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de larmes. Et puis, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le ministère pastoral bientôt. Alors, j'ai eu la responsabilité d'accompagner beaucoup de couples dans des moments difficiles. Je tenais à vous le rappeler simplement parce que je vous apporte le message de la parole et je ne veux pas abaisser les standards de Dieu. Mais je veux que vous compreniez, par exemple, que ce ne sont pas des paroles dites durement ou avec indifférence que je vous apporte. C'est après bien des années où j'ai accompagné bien des couples qui vivaient des difficultés. D'accord? Je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas de la théologie uniquement théorique pour moi. Ce matin, on termine ensemble de voir ce passage, et comme vous le verrez, il y aurait encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je décide volontairement de ne pas aborder plusieurs des détails dans le passage, plusieurs éléments qui mériteraient qu'on les étudie en profondeur. Mais je fais le choix de m'en garder aux grands éléments du passage. Je fais le choix, je pense, de m'en tenir au cœur du texte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le passage? Juste résumer la scène rapidement. Ça se résume à 2 scènes, d'accord? Jésus, au début, est en train de faire des guérisons, vient d'enseigner sur le pardon, encore une fois, avec des standards extraordinaires. Et puis, Jésus est en train de faire des guérisons. Et puis là, les pharisiens l'abordent avec une question assez générale, une question qui faisait débat dans la société juive à l'époque, parce qu'il y avait deux grandes écoles juives, ceux qui étaient de Hillel et ceux qui étaient de Shammai. Un était un peu plus restrictif. C'était dans leur interprétation de ce que Moïse a dit dans Deutéronome 24. Pour quelle raison aurions-nous droit de divorcer? Et il y avait un débat qui faisait rage à l'époque et les pharisiens veulent se servir de ça pour essayer de placer Jésus dans une situation difficile où il serait piégé en prenant position. Peut-être qu'enfin, la foule se détacherait de lui parce qu'il ne serait pas d'accord, une partie de la foule ne serait pas d'accord avec lui et les gens le verraient comme un diviseur. Donc, ils arrivent avec une question assez générale, assez simple. Jésus adresse la question en les ramenant. Il y a vraiment de l'ironie dans ce que Jésus va dire. Il les ramène au plan de Dieu. Il leur dit, n'avez-vous pas lu au commencement quel était le plan de Dieu? Et il les ramène au plan original de Dieu. C'est tout ce qu'il fait. Les pharisiens veulent avoir une réponse sur leur question par rapport au passage de Moïse. Alors, ils en appellent à Moïse. Oui, c'est beau le plan de Dieu, mais Moïse n'était-il pas le prophète de Dieu? Ah, qu'est-ce que tu fais de ce que Moïse a dit? Moïse semble dire qu'on peut divorcer si... Et là, on donne une lettre de divorce et la personne pourrait aller se remarier. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et Jésus, à ce moment-là, adresse la question du cœur. Il les ramène au plan de Dieu et leur dit, « Oui, Moïse a dit cela. Moïse a dit cela à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vos cœurs sont sclérosés. Sclérocardia. Vos cœurs sont sclérosés. Ils sont durs comme la pierre, incapables de recevoir la parole de Dieu et le dessein de Dieu. Et Jésus réaffirme le plan et la volonté de Dieu. Parce que Jésus est venu nous donner un cœur nouveau. Et nous allons pouvoir marcher dans ses voies et faire la volonté de Dieu. Alors Jésus fait juste réaffirmer cela. Maintenant, les disciples réagissent. Il y a une réaction de la part des disciples. Ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Les disciples sont réalistes. Ils savent que les mariages ne sont pas toujours faciles. Alors, ils disent, mais vraiment, Seigneur, si on veut marcher à ta suite, tu es en train de nous dire qu'on ne pourra plus servir aussi facilement de ce que Moïse a dit. Finalement, on est aussi bien de rester seul, aussi bien de rester célibataire, aussi bien de ne pas se marier. Vous comprenez qu'il n'est pas question ici d'union libre, là. Les disciples ne sont pas en train de dire, ben, on se mariera pas, puis on s'accotera. On aura des aventures. Non, c'était comme pas une option, là, dans le temps. Si tu avais un amour dans ta vie, tu le scellais par les liens du mariage. Dans la communauté juive, à tout le moins, c'est encore clair. Alors, ils sont en train de dire aussi bien ne pas vivre avec une femme, ne pas avoir une compagne tant qu'à ça. Et les disciples réagissent, puis ils vont dire, « Bien, à ce moment-là, aussi bien d'être célibataire. » OK, Jésus dit, « OK, on va parler un petit peu du célibat dans ce cas-là. » Puis là, il prend l'image d'un eunuque. Ce qui était courant à l'époque, il y en avait. Vous pouvez penser tout simplement aux serviteurs de la reine d'Égypte, n'est-ce pas? Un eunuque. Alors Jésus dit, ce n'est pas donné à tout le monde, par contre, de vivre ça, le célibat. C'est une possibilité, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Puis là, Jésus fait juste une constatation. Il part d'une observation. Il dit, bien sûr, certaines personnes de naissance ne se marieront pas. Et il faut comprendre. Il faut saisir, parce qu'autrement, ça sonne un peu étrange pour nous. Il faut saisir qu'à l'époque, l'idée d'avoir des enfants était, sinon l'objectif principal du mariage, presque l'objectif principal. Le mandat qui avait été donné, c'est « multipliez-vous ». Les gens se mariaient pour avoir des enfants. Ainsi, si de naissance, tu naissais avec un certain handicap, si tu étais eunuque de naissance, handicapé, incapable d'avoir des enfants. J'oserais même dire incapable de tenir maison, peut-être. Mais tes chances de te marier étaient pas mal faibles. Parce que les gens se mariaient pour avoir des enfants. Alors, vous voyez, on est à une autre époque et juste des mariages d'amour en disant, bien, c'est correct comme ça, moi ça me va. Pensez, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, toute la question de la stérilité, à quel point c'est important, puis ça revient constamment. On se mariait pour avoir des enfants. Alors certains ne pourront pas avoir des enfants de naissance parce qu'ils naissent handicapés. D'autres seront rendus eunuques par les hommes. Littéralement, dans certains cas, seront mutilés, castrés. C'est ça un eunuque? Entre autres, ceux qui étaient consacrés au service auprès des reines. Il y avait un objectif derrière ça. On voulait s'assurer que la reine demeure fidèle à son époux. Alors, les hommes qui étaient attitrés au service auprès des reines étaient régulièrement des eunuques castrés par les hommes, mutilés par les hommes. Mais je pense qu'on pourrait élargir ça aussi. Certains ont été brisés par les hommes et ne se marieront jamais à cause de ça. Mais Jésus dit, il y en a aussi, par contre, qui ont un appel particulier, c'est vrai. Ceux-là sont appelés au célibat, hommes ou femmes, pour le royaume. Et là, Jésus corrige quelque chose ici. Parce que les disciples réagissent puis ils disent, ben si c'est aussi engageant de se marier, autant pas se marier puis rester célibataire. Jésus leur dit, c'est vrai, certains sont appelés à cela. Gloire à Dieu, c'est leur appel. Pour avoir plus de temps, pour servir le Seigneur, un horaire plus flexible. Mais remarquez bien que c'est un appel particulier qu'ils ont. Ça ne semble pas être parce qu'ils cherchent leur avantage. Autant rester seul pour que ce soit plus à mon avantage. Si c'est ton appel, c'est pour que tu puisses servir davantage le Seigneur. C'est l'avantage de Dieu. D'accord? Et puis Jésus les laisse comme ça. C'est comme s'il y a un élément qui n'a pas répondu, on dirait. Une exclamation de la part des disciples. Jésus en profite puis il va enseigner sur le célibat. Mais on dirait qu'il ne répond pas à la question de l'exigence. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans le passage. Ça fait des années que j'étudie ce passage-là, que des gens viennent me poser des questions puis qu'on étudie, on fait toute la théologie du divorce. Ce n'est pas ça que je fais ici ce matin, d'accord? Je vous le dis, il faudrait aller dans plein d'autres passages. Il faudrait aller dans 1 Corinthiens 7, il faudrait aller voir le prophète Malachie, il faudrait aller voir Luc, il faudrait aller voir Marc. Ce n'est pas le cœur de ce texte-là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le verset 10. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Ça m'a intrigué. Dans le fond, les disciples sont humains comme tout le monde. Ils cherchent ce qui est à leur avantage. Ils sont réalistes. Ils sont pareils comme tout le monde. Et si le mariage est vraiment cette alliance permanente entre un homme et une femme, ils n'y voient plus leur avantage. Les disciples commencent à se dire, le célibat est peut-être moins contraignant en fin de compte. C'est peut-être moins engageant, peut-être qu'on devrait tout simplement s'abstenir. Ça m'a intrigué, cette idée de ce qui est le plus avantageux. Dans le fond, les disciples se disent, écoutez bien ceci, si le plan de Dieu est aussi exigeant, ce n'est peut-être pas si avantageux que ça, en fin de compte, de suivre le plan de Dieu. C'est ça qu'ils disent, non? Jésus leur dit, c'était ça le design au départ. Genèse 1, 2, c'était ça le plan de match. Oui, mais en fin de compte, il n'est peut-être pas si hot que ça, le plan de Dieu. Peut-être pas si avantageux que ça. C'est juste une exclamation, d'accord? C'est pas très, très réfléchi de leur part. C'est fort, là, ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire, aussi bien rester seul. Comme j'ai dit tantôt, ils n'ont pas dans l'idée d'aller vers des unions libres, là. Ils sont en train de dire, aussi bien de s'abstenir. C'est pas très réfléchi. Mais quand même, c'est une exclamation, et des fois, dans nos exclamations, le fond du cœur se dévoile. Ils disent finalement, le mariage, si c'est aussi exigeant que ça, on n'est pas sûr que c'est si intéressant que ça. Maintenant, ça fait des mois que j'étudie Matthieu, puis je suis resté intrigué avec ça. Et ça m'a lancé sur une piste. Cette semaine, j'ai relu l'Évangile de Matthieu au complet. Parce que Jésus ne répond pas vraiment à leur exclamation ici. Jésus leur dit, c'est ça le plan de Dieu. Eux autres disent, ouais, mais c'est peut-être trop exigeant. Fait qu'on est aussi bien de rester seul. Il dit, bien, certains sont appelés à rester seuls. Les autres sont appelés à se marier. Mais, oui, mais c'est exigeant. Jésus répond comme pas à l'exclamation de leur cœur. Maintenant, ça fait des mois que j'étudie Matthieu, puis dans ma tête, je me disais, la réponse est là dans Matthieu. Jésus adresse cette question-là de ce qui est bon, de ce qui est avantageux pour l'homme. Alors, cette semaine, j'ai relu tout l'Évangile de Matthieu, je suis reparti du départ, et Jésus parle constamment dans l'Évangile de Matthieu de ce qui est avantageux pour l'homme, de ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain. Et je pense que c'est ça la vraie question ici. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour l'être humain? Et lorsqu'on survole l'Évangile de Matthieu, on réalise que Jésus parle souvent de ce qui est avantageux pour nous. Dans le fond, Jésus adresse cette question-là. Même si ici, il ne leur répond pas, tout le long de l'Évangile de Matthieu, il dit aux hommes ce qui est le plus avantageux pour eux. On va regarder ensemble ce qui est le plus avantageux selon Jésus, juste en restant dans l'Évangile de Matthieu. Prenons par exemple la question des ennemis. Qu'est-ce qui est le plus avantageux dans nos relations avec nos ennemis selon Jésus? Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. C'est ça qu'il dit, non? Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Donc, si je le résume, quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. C'est ce que Jésus a à dire. Alors, soyons pratiques. Ton supérieur au travail, ton boss, le cadre qui est au-dessus de toi, fais du favoritisme. Il y a des chouchous qui ont soit plus d'heures de travail, soit les congés choisis, soit qu'on remarque toujours leur bon travail. Il y a des chouchous. Et tu ne fais pas partie de la gang des chouchous. Si tu faisais partie de la gang des chouchous, probablement que je ne pourrais pas appliquer cet exemple-là, n'est-ce pas? Mais tu ne fais pas partie de la gang des chouchous, puis tu vois bien qu'il y a du favoritisme. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Mais Jésus lui dit, aime-le. C'est ça qu'il dit, aime-le, fais-lui du bien. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu devrais connaître sa date de fête, au minimum. Une boîte de chocolat, une carte à sa fête. Le boss au-dessus de lui lui donne un mandat. Mets tous tes efforts pour qu'il réussisse. Et là, on pourrait être tenté de croire, dans le fond, c'est avantageux parce que tu vas peut-être le gagner. Tournez avec moi dans Matthieu 5, s'il vous plaît. Tournez avec moi dans Matthieu 5, verset 44. Est-ce que c'est avantageux d'aimer nos ennemis? Ben, peut-être, si je deviens, on va le dire en québécois, têteux. Peut-être que je vais changer de gang. Peut-être que je vais entrer dans la gang des chouchous. Ça va être avantageux d'aimer mes ennemis. Mais dans ce cas-là, on ne pourrait pas appliquer le texte. Tu ne serais pas en train d'aimer tes ennemis. Quel est l'avantage d'aimer mes ennemis? Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quel est l'avantage? Verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Jésus n'a même pas le projet que ça change leur attitude. Tu commences à appliquer ce texte-là de bonne foi et tu commences à faire du bien à ton ennemi. Ça ne te donne rien. Il continue à te maîtriser. Finalement, tu peux classer la question. Il n'est pas capable de te blairer. Pas capable de te sentir. Une réaction humaine, ordinaire, naturelle, ce serait, je ne sais pas, de le remettre à sa place quand tu as une opportunité. Si tu veux te comporter comme un bon chrétien, peut-être que tu ne te vengeras pas, mais au strict minimum, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas au moins couper quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose dans ton cœur par rapport à cette personne-là qui va dire, regarde, toi tu restes dans ton coin, moi je reste dans le mien, je ne suis pas capable de te sentir, tu n'es pas capable de me sentir, c'est correct, c'est clair. Il y a quelque chose qui se coupe à l'intérieur. Mais Jésus te dit, aime-le. Il parle d'affection là, ici. Là. C'est pas de la théorie. Là. Aime-le, fais-lui du bien. Cherche son succès dans l'entreprise. Encourage-le. Mais ça donne rien. C'est quoi l'avantage? Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Parce qu'en faisant cela, tu vas ressembler à Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. On le sait au Québec cette année, Dieu fait pleuvoir sur tout le monde, c'est vrai? Les bons et les méchants. OK? On l'a vu. Tu vas ressembler à Dieu. Ton cœur va être rassuré de savoir que tu es bel et bien un digne fils, une digne fille de ton Père qui est dans les cieux, qui fait du bien aux bons et aux méchants. C'est ça l'avantage que tu vas tirer. Jésus parle de ce qui est avantageux. Un autre exemple, restons sur le sujet des ennemis, mais plus précisément les persécutions. Qu'est-ce qui est le plus avantageux dans le domaine des persécutions? Jésus nous dit toujours dans Matthieu 5, un peu plus tôt, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Puis là, Jésus dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Hello! Peut-être que vous travaillez dans un milieu professionnel où c'est de bon ton aujourd'hui de respecter la philosophie de chaque personne. Maintenant, Jésus dit « à cause de moi ». Alors, ça sous-entend qu'à un certain moment donné, j'ai ouvert la bouche puis j'ai dit « Jésus, minimalement ». Alors, au cours d'une discussion autour de la table, tout le monde est très respectueux, puis quelqu'un laisse tomber la phrase classique, bien, de toute façon, on s'en va tous à la même place. Toutes les religions parlent d'amour. Essaye cette phrase-là la prochaine fois que tu vas entendre ça. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, soit que Jésus est d'un patate, ou soit que Jésus a raison, mais Jésus affirme que lui seul a la vérité. Dieu, dans l'Ancien Testament, haïssait toutes les idoles et tous les autres dieux. Jésus est le seul chemin. Oups, ça se peut que les relations de travail changent un petit peu. Il y en a qui vont commencer à s'approcher de vous, il y en a plusieurs qui vont s'éloigner. Et là, ça peut devenir tendu. On commence à parler dans votre dos. Yannick, c'est un fondamentaliste. T'as entendu parler de George Bush? Yannick, c'est un fondamentaliste. J'ai même entendu dire que c'était un baptiste. Ma fille, 9 ans, se fait traiter à l'époque, à 11 ans aujourd'hui, de niaiseuse par une petite fille qui dit « Moi, je suis athée. Toi, t'es niaiseuse de croire en Dieu. » Ça brise les relations. Qu'est-ce que tu dis à ta petite fille de 9 ans à ce moment-là? Est-ce que tu lui dis, tu sais, il y a des gens méchants partout. Il faut que tu apprennes à ne pas les écouter, c'est tout, à passer par-dessus ça. Ou est-ce que tu lui dis, tu sais, Jade, dans le fond, ça devrait t'apporter de la joie dans le cœur. Matthieu 5, le début de Matthieu 5, verset 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, Matthieu 5, 11, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tu veux que je sois content, Jésus? C'est parce que si en plus de ça, quand on parle dans mon dos, j'arrive à job, puis j'ai un gros sourire dans le visage, là c'est vraiment, tu sais, tout-tout-tout-tout. Yannick, on le sait, tu sais. Verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » On ne les cherche pas, les persécutions. Mais il y a un réconfort profond. Un réconfort profond de se rappeler que tous ceux qui vont annoncer Jésus-Christ ne seront pas toujours aimés. Souvent vont être maltraités. Et on sait que pour certains, on sera une odeur de mort, à d'autres, une odeur de vie. Et Jésus nous dit que ça devrait apporter de la joie et de la paix dans notre cœur, de passer à travers les persécutions. Parce que lorsqu'on va arriver au ciel de l'autre côté, nous allons nous réjouir d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus-Christ, d'avoir osé dire le nom de Jésus. Au contraire, si je ne dis pas le nom de Jésus, c'est là que je vais avoir des larmes de l'autre côté, des larmes de douleur, parce que j'aurais eu honte de Jésus-Christ. Mais si j'ose m'afficher pour Christ, avec toutes les persécutions que ça implique, je contemple l'éternité et je dis, Seigneur, je me suis tenu debout pour toi. Quand je vais arriver devant mon Père, tu vas faire la même chose pour moi. Amen. Qu'est-ce qui est plus avantageux par rapport aux ennemis et aux persécutions? L'éternité, rassurez mon cœur. Un autre exemple, question d'argent. Qu'est-ce qui est le plus avantageux, selon Jésus, dans le domaine des finances? Jésus dit des phrases du genre, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. » Il n'y a personne ici d'assez riche pour s'amasser des trésors. Depuis que mes enfants sont tout petits, on leur apprend, les enfants dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu beaucoup de personnes aussi riches que papa et maman. Pas beaucoup de personnes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ou encore, si quelqu'un veut ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, on a 6 autres manteaux dans la garde-robe. Mais transposons, si quelqu'un te vole ton laptop, donne-y ta nouvelle télévision. Quelqu'un accroche ta voiture, tu peux dire, « Hey, il n'y a pas de problème, mon homme. » Quelqu'un vole ta bicyclette, tu lui dis, « As-tu besoin d'une voiture? » Je comprends qu'on se dit, « Ouais, mais Jésus est juste en train de donner des images. » Ça avait de l'air très littéral dans sa vie à lui. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. » Puis au jeune homme riche, un tout petit peu plus loin dans Matthieu 19, voici ce qu'il va dire. « Vends tout ce que tu possèdes, donne le profit aux pauvres, puis viens, suis-moi. » En fait, quand tu regardes ce que Jésus pense des biens matériels et des finances, tu as vraiment l'impression que ça n'a aucune importance pour lui. Tu termines, si tu fais une étude sur Jésus et les biens matériels, le confort matériel, les finances, ça donne le sentiment que c'est extrêmement secondaire pour lui, puis que tout ça, là, ça devrait servir en fin de compte à faire du bien. Puis qu'on devrait être assez détaché de ça. Ne pas se préoccuper, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Certainement être sage, mais en même temps être fou parfois. Assez fou pour faire des folies du genre « je m'en vais en vacances, j'ai une deuxième voiture qui traîne dans l'entrée. » Il n'y a pas quelqu'un qui en aurait besoin pour les vacances? Ou plus encore, j'ai peut-être une voiture de trop, je pourrais te la donner. Ou encore dire « ben j'ai pu mettre ça de côté, mais peut-être que Dieu veut que j'en sacrifie une partie pour l'avancement du royaume, parce que ça pourrait me permettre d'aller sur le champ missionnaire, par exemple. » D'aller servir Jésus cet été en évangélisant dans les villes et villages avec Gibec. Mais c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage, Seigneur, d'avoir ce genre d'attitude-là? Il me semble que c'est irresponsable. Il faut quand même être sage et prévoyant. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que le cours de la bourse ne fluctue pas au ciel. Il est toujours en constante progression. L'avantage, c'est que Yannick, tu as 39 ans, tu as le sentiment que les 39 premières années de ta vie sont passées comme à peu près 3-4 ans. Je vais avoir 39 ans cet automne, puis quand je regarde en arrière, je suis né, je jouais avec mes schtroumpfs, j'écoutais des bonhommes, je suis allé quelques jours à l'école, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai 39 ans. Il me reste combien de temps? 40 ans peut-être, si ça passe aussi vite que les 40 premières, je voudrais faire de l'investissement à long terme, moi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez-vous des trésors au ciel. Les biens qu'on a selon Jésus, l'avantage c'est quoi? C'est de les investir au ciel. Au jeune homme riche, il lui dit, « Vends tout ce que tu possèdes, donne le profit aux pauvres, viens, suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. » C'est quoi l'avantage? Jésus cherche pour toi ce qu'il y a de plus avantageux. Un placement éternel. Pas un placement sur 40 ans. C'est du court terme avec Jésus, 40 ans. C'est comme une vapeur. Un dernier exemple. qu'on a vu à travers le dernier mois, dans le chapitre 18, avec toute la question du pardon. L'apôtre Pierre demande à Jésus, « Combien de fois devrais-je pardonner à celui qui pèche contre moi? Est-ce que 7 fois serait assez? » Puis là, Jésus lui répond, « Non, Pierre, c'est à l'infini qu'il va falloir que tu pardonnes. » N'est-ce pas? Il lui dit, « 70 fois 7 fois. » En d'autres mots, infiniment, tu vas devoir pardonner. Et là, la question se pose. Est-ce que Jésus n'est pas ici en train d'encourager l'abus? Sérieusement, quand tu as pardonné à quelqu'un 7 fois la même niaiserie, s'il n'a pas compris après 7 fois, il ne comprendra jamais, il me semble. Est-ce que Jésus est en train d'encourager l'abus ici? C'est quoi l'avantage de continuer à pardonner? Il ne comprendra pas. Vous connaissez le grand proverbe chinois qui dit « Il y a un bout à tout. » Il me semble. Non? S'il n'a pas compris après 7-8 fois où tu lui pardonnes, c'est quoi l'avantage de continuer à lui pardonner? C'est un pattern d'abus là, qu'on est en train de mettre en place? Non? Bien, encore une fois, Jésus ne semble pas voir l'avantage de cette manière-là. Et il dit qu'on devrait pardonner à l'infini. Alors, quel est l'avantage? Bien, voici comment Jésus aurait pu répondre à la question de Pierre. Combien de fois, Pierre, veux-tu que Dieu te pardonne de tout son cœur? Et pour être un peu plus précis, Jésus aurait pu dire à Pierre, « Pierre, combien de fois veux-tu que Dieu te pardonne le même péché? » Tu sais, celui de tes 2-3 péchés que ça fait 10 ans que tu n'arrives pas à te débarrasser. Est-ce qu'après 7 fois, Dieu t'a assez pardonné? Ou tu veux qu'il te pardonne à l'infini? C'est quoi l'avantage de pardonner à l'infini? C'est qu'ainsi je démontre que je suis un fils et une fille de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père pardonne toujours à ses enfants. Toujours à ses enfants. Comme vous pouvez le voir, Jésus parle beaucoup de ce qui est avantageux. Jésus cherche ce qui est avantageux pour nous. Par exemple, il va dire dans Matthieu 5, 29, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est plus avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. » Et la géhenne, c'est un terme commun pour parler de ce qu'on appelle l'enfer, séparé de Dieu pour l'éternité. Jésus prend une image forte en disant « Arrache ton œil s'il est une occasion de chute pour toi. » Puis nous, on pourrait dire « Si Internet est une occasion de chute pour toi, débranche-toi. Si telle amitié est une occasion de chute pour toi, parce que chaque fois que tu te retrouves avec tel ami en fin de soirée, tu te retrouves à faire des choses que tu regrettes parce que cette personne ne marche pas avec Dieu puis elle t'amène toujours à t'éloigner de Dieu. Prive-toi de cette relation-là. Pourquoi? Parce que c'est mieux de te priver de cette relation. » Te priver d'Internet, te priver de ta télé, si c'est pour être en communion avec Dieu, que de demeurer dans ton péché et être séparé de Dieu pour l'éternité.